Le bouche à oreille. Une émission de la rédaction de RVM.
Bonjour les auditeurs de RVM, c'est Frédéric qui est dans les studios en compagnie de André. Bonjour André.
Bonjour Fred.
Donc aujourd'hui André, nous sommes dans un bouche-oreille un peu spécial puisqu'on n'a pas de technicien, mais tu es là pour m'aider aujourd'hui. Donc,
oui, mais on a un excellent technicien avec
toi. Bah écoute, j'espère que ça va être de bonne qualité. Hein, voilà. Donc on a une association qui vient nous rendre visite car nous allons parler de musique, de grande musique, d'orgue et tout. Peux-tu nous la présenter, s'il te plaît, André ?
Oula, la présenter, ça serait bien prétentieux de ma part. Je peux dire qu'il s'agit de l'association Valéran de Eman, qui est... Alors, est-ce qu'on dit Eman ou Aimant ?
Aimant.
Aimant. Bon, ça s'écrit H-E-M-A-N. Valéran de Eman, qui est une association de mots et qui s'occupe particulièrement de l'orgue. Et la présence de l'orgue à Meaux, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, puisque c'est une très, 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 très longue histoire. Une partie de l'histoire de France pourrait y passer, puisque de présence de l'orgue, l'orgue est avéré depuis 1221.
Ah oui, ça ne rajeunit pas tout ça. Hein.
Surtout à partir de 1627, où les grandes orgues dans la cathédrale de Meaux ont été implantées. Bon, bref, c'est une grande histoire avec Meaux. Voilà.
Donc, on va faire connaissance avec les personnes qui représentent l'association, si tu veux bien.
Bien sûr, avec monsieur le président, monsieur René Penaud.
Bonjour, président.
Bonjour.
Bienvenue dans nos studios.
Merci.
Donc, vous êtes président à l'origine de l'association, c'est ça ? Vous êtes depuis
Exactement.
Le début de l'association.
Hein ?
Président et président fondateur.
Fondateur,
oui, voilà.
Voilà.
On est à l'origine, notre association a été créée pour reconstruire l'orgue de la cathédrale en 1976. Et ça a demandé beaucoup de travail, travail administratif, mais aussi travail par le facteur d'orgue. Et l'inauguration a eu lieu en 1980. Et depuis, on a toujours un grand projet, je dirais, en perspective. Ensuite, dans les années 1980-90, on a construit un petit orgue de 8 jeux pour que puisse s'ouvrir une classe d'orgue au Conservatoire de Meaux. Ensuite, dans les années 2000, on a acquis un orgue numérique, c'est-à-dire c'est pas un orgue à tuyaux, mais maintenant on fait des choses très très bien. Un orgue numérique assez important, d'une soixantaine de jeux, qui a servi à l'accompagnement du chœur à travers chants, qui était une émanation aussi de notre association. Et puis maintenant, le grand projet, ça a été, depuis qui nous tient depuis plusieurs années, ça a été de construire un orgue. Un orgue qui a plusieurs caractéristiques. C'est un orgue c'est un orgue de 25 jeux qui est inspiré par les instruments dont jouissait Jean-Sébastien Bach à Weimar. Il avait dans les 30 ans à l'époque et il a été pendant 9 ans organiste à Weimar. Et là, il disposait de deux orgues, un instrument de 25 jeux qui étaient au château, il était organiste au château, mais il disposait aussi de l'orgue de la paroisse, qui était un instrument de 24 jeux, dont son cousin Walter était titulaire. Donc c'est un petit peu inspiré par ces deux instruments que nous avons voulu construire un instrument nouveau.
On parlera sans doute de ce projet.
On sent que le président, il est bien, bien orienté sur l'orgue. Hein.
Oui.
Pas d'orgue, bon tant pis, alors du coup, on ne trouvera pas chez vous. Ça.
Non, je ne pense pas.
Alors, vous êtes accompagné d'une dame. Donc, bonjour.
Bonjour,
Isabelle, c'est ça ?
C'est ça, Isabelle Fauquenoy. Je suis en charge de la communication au sein de l'association depuis une trentaine d'années. Donc, je suis René et sa fidèle équipe. Depuis toutes ces années.
Et c'est grâce à vous qu'on se retrouve dans le studio, puisqu'on a communiqué ensemble pour pouvoir réaliser cette émission aujourd'hui, pour faire découvrir votre association. Mais avant qu'on découvre l'association, André, ça serait bien qu'on découvre nos invités. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Isabelle ? À part ça, c'est votre métier ou...
J'ai été journaliste pendant de nombreuses années.
Oh, bah, sur alors, le territoire on va vous laisser le studio, nous, on va s'en aller. Hein,
bah, donc, oui. Hein.
J'ai fait un tout petit peu de radio dans une radio meldoise associative. Et puis donc, je suis ravie de rentrer de nouveau dans un studio et d'être accueillie par vous si gentiment.
Ah ben, nous, on est ravis de vous recevoir. Donc, monsieur le président, retraité, alors, je suppose.
Oh, ben oui, oui, retraité depuis un certain temps. Mais à l'origine, j'ai été pharmacien dans le marché à Meaux, qui est un quartier bien particulier de la ville. J'ai été pharmacien titulaire là pendant 35 ans. Aujourd'hui, c'est ma fille qui a pris ma succession. Mais étant pharmacien, j'ai aussi été organiste de la cathédrale.
D'accord.
Parce que hein, j'ai été organiste titulaire de la cathédrale pendant également 35 ans, ce qui m'a permis justement de conduire la reconstruction de l'orgue dont j'ai parlé tout à l'heure et de créer l'association pour que ça puisse se réaliser.
Alors c'est extraordinaire parce que Meaux a à peu près 54 000 habitants, mais il y a au moins 6 endroits où on trouve de l'orgue. C'est absolument
c'est
extraordinaire.
Énorme, ouais.
Je disais tout à l'heure en aparté, mais Meaux va devenir la capitale de l'orgue.
Oh, ben non.
Par rapport au nombre d'habitants, c'est assez extraordinaire quand même. Et puis, c'est surtout une présence historique en plus.
Eh bien oui, parce qu'on sait maintenant, et là nous allons le commémorer à la fin de l'année, on sait que dès 1221, il y avait un orgue dans la cathédrale. Ça va donc faire, enfin, ça aurait fait l'année dernière le 8e centenaire. Et dès 1221, on sait qu'il y avait un orgue dans la cathédrale. Il n'était pas sur la tribune, qui n'était pas construite. Et à l'époque, les instruments étaient au sol pour accompagner les chœurs. Mais ensuite, il y a eu plusieurs instruments. Il y a probablement eu un sous Philippe de Vitry, qui était évêque de Meaux et qui a inventé la manière d'écrire le chant grégorien avec les notes rouges, par exemple. Ensuite, il y a eu un autre instrument. Après que les protestants aient détruit l'instrument qu'il y avait dans la cathédrale au moment des guerres de religion, on a reconstruit un orgue en 1627. C'est celui-là dont on détient encore des tuyaux actuellement dans l'instrument actuel.
C'est extraordinaire parce que dans cette cathédrale se sont succédés les plus grands facteurs d'orgue de l'histoire.
Oui. Oui, oui. Alors, à l'origine, l'instrument a été construit par Valéran de Aimant. C'est lui, donc, on a pris son nom pour l'association. L'instrument a été construit par Valéran de Aimant en 1627. C'était un instrument comme on les construisait à l'époque baroque française. Ensuite, il a probablement été revu sous Bossuet dans les années 1680. On a fait encore des travaux en 1734 par un facteur qui s'appelait Dallery. Ensuite, il y a eu un célèbre facteur d'orgue qui s'appelait Cliquot dans les années 1780. Puis il y a eu la famille Dallery au cours du 19e siècle qui est apparue autour de l'instrument à plusieurs reprises, sans compter Brissé à la fin du siècle. Et on est arrivé en 1934 où on a fait une grande reconstruction dite, au point de vue du style, dite néoclassique. Ça a été fait par Victor Gonzalez, qui voulait faire à la fois la synthèse entre l'orgue symphonique du 19e siècle et l'orgue classique qu'on avait connu auparavant.
Alors, il y a une question qui me brûle tout de suite, c'est que, par exemple, cet orgue a évolué, a eu un certain nombre de jeux variables. Il faudrait que vous puissiez nous expliquer un peu comment fonctionne l'orgue. Parce que, si je comprends bien, en 1627, il y avait 28 jeux. Mmh. Ensuite, on est passé à 38 jeux, on est passé à 41 jeux. Expliquez-nous un peu ce que sont ces
oui,
jeux.
Oui, pour les auditeurs néophytes un peu comme moi, qui ne savent pas ce que c'est des jeux, tout ça, qu'on aimerait... On rentre un petit peu dans le détail. Oui. Et puis moi, j'aimerais savoir pourquoi vous avez créé l'association. Qu'est-ce qui a été le moteur pour créer cette association au départ, René?
Alors, je réponds déjà à votre première question.
Allez-y.
L'histoire des jeux. Un jeu, c'est une série de 56 tuyaux qui ont la même sonorité. Enfin, 56, ça dépend des... Si vous avez des claviers de 56 notes, vous avez pour un jeu, pour mettons une montre ou une doublette ou un prestant, vous avez 56 tuyaux qui donnent cette sonorité-là. Bien sûr, ça monte, hein, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, etc. On monte 56 tuyaux, ça fait presque... ça fait combien? 12. Ça fait 8... 8 non, ça fait 6... 6 fois 12, ça fait 5 octaves. Oui, c'est ça, ça oui. fait 5 octaves. Donc, un jeu, c'est ça. Alors, dans les orgues, on aligne des séries de tuyaux, et ce qui veut dire que l'on augmente les jeux.
Oui.
Hein, à chaque fois. Et à chaque fois, on a des sonorités, et en tirant les tirants de registre, on va faire ajouter les différents jeux les uns aux autres pour faire des sonorités variées. Hein, on n'est pas forcé de mettre tout, on en met un, on en met deux, on en met quatre, on en met dix. Et, bon. Et au cours des siècles, on a eu plutôt tendance à augmenter les instruments. Au début, vous avez dit que l'instrument avait 28 jeux. En 1734 ou 1785, il avait une dizaine de jeux de plus. Vous voyez, au 19e siècle, on est arrivé à des orgues romantiques ou symphoniques qui avaient 42 jeux. Mmh. Et puis l'orgue de Victor Gonzalez en 1934, il avait 50 jeux. Mmh. Et en 1980, on a refait un instrument qui avait, lui, 67 jeux. Mmh. Donc c'est plutôt toujours une augmentation. Surtout dans les cathédrales, où c'est l'État qui est propriétaire. Et l'État qui est propriétaire a de l'argent, même si les caisses sont vides. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que les instruments dans les cathédrales ont plutôt tendance à suivre l'évolution du mouvement et l'évolution esthétique de la musique d'orgue.
D'accord.
Alors, la deuxième question, vous m'aviez posé pourquoi on a créé l'association.
Exactement, voilà.
Eh bien, parce qu'en 1976, on s'est aperçu que le grand orgue qui avait été restauré en 1934 par Victor Gonzalez était à bout de souffle. C'est toujours l'expression, on dit un orgue est à bout de souffle. Et si on regarde depuis, mettons, 1627, il y a à peu près 2 restaurations par siècle, en gros, hein, environ. Vous voyez, 1627, 1680, 1734, donc à peu près tous les 50 ans, on fait des travaux. Or, on était arrivé en 1976, ça faisait 50 ans que l'orgue avait été reconstruit par Victor Gonzalez, et on était arrivé à un instrument qui était, on dit, à bout de souffle.
Oui, hein.
Bon. C'est un instrument avant.
C'est un instrument avant, ça ne va pas le faire vraiment.
Voilà. Donc, on a dit, à l'époque, il y avait une solution, c'était de faire une association qui allait conduire cette reconstruction, parce que ça suppose qu'on va aller sonner, tirer les sonnettes auprès de l'État, auprès du département, auprès du conservateur des monuments historiques. Voyez, si ce n'est aussi en comptant avec le clergé. Donc, voyez, c'est une démarche très fournie.
De la culture, sans doute, aussi.
Oui, bien sûr. Oui.
Et rechercher des mécènes aussi à l'échelle locale au niveau des...
Ce qui était particulièrement votre travail, alors.
Alors, à l'époque, non, je ne faisais pas partie de l'association. Je suis entrée en contact avec l'association en 1991. L'association en 1976, j'étais encore un bébé.
Donc, c'est pour ça que ça s'appelle les amis de la cathédrale, c'est ça aussi, hein?
Non. Les amis de la cathédrale, c'est autre chose. Nous, c'est les amis de l'orgue. L'association Valéran de
Mont, les
amis de l'orgue de Meaux.
Mais nous sommes très amis avec les amis de la cathédrale et nous allons organiser une manifestation, enfin, on va faire partie d'une manifestation le 21 mai prochain.
Pour les 30 ans, c'est ça?
Pour les 30 ans de cette association, justement, les amis de la cathédrale. On participe, on tiendra un stand et il sera possible, justement, de rencontrer les membres de l'association Valéran de Mont. Et des questionner sur le projet dont on vient parler aujourd'hui, Novorgamo.
Novorgamo.
C'est très bien trouvé, Novorgamo. Hein,
oui.
Ça a été réfléchi, hein.
Oui. Mais alors, vous pouvez nous parler un petit peu plus de cette manifestation, déjà?
Alors, dans le cadre de la journée des cathédrales.
Voilà.
Oui, la nuit des cathédrales.
La nuit des cathédrales, tout à fait. Donc, de 14h à... presque 22 heures, il sera possible d'assister à des conférences, des expositions, visites guidées de la cathédrale, et puis différents stands où les associations locales ayant pour mission de promouvoir la cathédrale, dont l'association Valéran de Mont à travers sa mission autour des orgues, ils seront sur place et il sera possible de les rencontrer donc tout l'après-midi.
Et je pense qu'on écoutera de l'orgue.
Oui, il est prévu un concert et il est prévu aussi, je crois, une conférence par le pasteur Alain Joly, je crois, qui est un spécialiste de la musique d'orgue. Et donc, ce sera probablement très intéressant.
Voilà, bien. Puis après, on se projette au mois de septembre, pendant qu'on est dans les dates où il se passe des événements. J'ai noté le 16 septembre et le 17 septembre. Donc, le 16, c'est l'inauguration du nouvel orgue, si tout va bien. C'est ça ?
Vous êtes, oui, c'est l'inauguration proprement dite. Alors, normalement, c'est 16, 17 et 18.
D'accord.
Le 16, ça va être l'inauguration proprement dite. Ça va être l'orgue pour tous. C'est un petit peu, on ne l'a pas encore évoqué, mais c'est un petit peu l'un des buts de cette opération. C'est l'orgue pour tous, un peu démocratisation de l'orgue, bien que ce terme-là est un peu galvaudé. Mais enfin, bon, ça sera le 16. Le 17, ça va être l'orgue et ses partenaires, les autres instruments, deux orgues, orgue et violon, orgue et voix, orgue et chœur, des choses comme ça. Ça sera le samedi. Et le dimanche, c'est là qu'on va faire le 8e centenaire d'un orgue dans la cathédrale. D'accord. Où on fera un concert promenade. On commencera trois quarts d'heure de musique dans la cathédrale et ensuite on se transportera au musée qui est à côté, juste à traverser la cour. On se transportera au musée et on fera encore trois quarts d'heure de musique.
C'est le musée Bossuet, c'est ça ?
Oui, c'est le musée Bossuet. Alors le premier concert à la cathédrale, ça sera plutôt l'instrument français tel qu'est l'orgue actuellement, classique ou symphonique. Et puis nous, ça sera plutôt au musée, un concert sur l'instrument neuf, bien sûr. L'instrument neuf, plutôt de style baroque, pour jouer la musique allemande, la musique de Bach, parce que jouer la musique de Bach, maintenant, les gens sont assez puristes, et l'orgue de la cathédrale, ça tourne beaucoup, et c'est pas tout à fait adapté à la musique de Bach, qui a besoin d'orgues assez clairs. Et
quand vous dites que ça tourne beaucoup, c'est les sons qui tournent beaucoup dans la...
Les sons qui tournent beaucoup.
Dans la voûte, dans les voûtes.
Et puis, c'est vrai qu'on en revient beaucoup aux instruments d'époque en même temps.
Oui, depuis plusieurs dizaines d'années, oui. Maintenant, on cherche beaucoup d'authenticité. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu... Il n'y a pas à Meaux parmi... Vous avez dit qu'il y avait beaucoup d'orgues à Meaux. Enfin, il y a déjà, mettons, 5 orgues. Ils sont de styles différents. Oui. Mais il n'y a aucun instrument qui est pour jouer cette musique baroque. Donc, on a voulu occuper le créneau, si vous voulez, comme complémentarité avec l'orgue de la cathédrale.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est intéressant parce qu'ils sont proches. Donc, par exemple, si on veut après, parce que après l'inauguration n'est qu'une étape. Après, on veut mettre en place toute une saison musicale autour des instruments, avec les associations, les partenaires culturels de la ville.
Voilà. Si je peux me permettre, je vais faire un jeu de mots qui n'est pas top, mais c'est un comeback, on peut dire, alors.
Ben, voyons.
Voilà. Oui.
Oui,
bien sûr.
Et on précise que c'est la cathédrale Saint-Étienne, c'est ça.
Saint-Étienne,
On ne l'a pas dit depuis le début de l'émission, mais pour les auditeurs qui écoutent et qui aimeraient aller se balader sur Meaux, donc c'est la cathédrale Saint-Étienne.
Il n'y en a qu'une, sur Meaux.
Oui, en plus, on ne peut pas se tromper.
Nous ne se tromperons pas.
Et puis, on la voit bien. Oui. Elle est difficile.
Et donc, le musée dans lequel va être installé le nouvel orgue, donc avec ce projet dont on est venu vous parler, Novorgamo, le musée se trouve dans la cité épiscopale, donc à deux pas de la cathédrale.
Donc comme ça, c'est très bien, on peut joindre les deux sans problème.
Sans problème, oui, il y a un très beau jardin aussi, qu'il est possible de visiter.
Donc là, le 16 et 17, ça sera dans le cadre des 16, 17 journées et 18. Patrimoine, c'est ça ?
Oui, absolument.
Voilà, donc là, vous rentrez bien tout à fait dans le...
Parce que, je dis toujours, le patrimoine de demain se construit aujourd'hui.
Exactement.
Oui.
Je pense qu'on aura l'occasion quand même à la radio de rappeler ces dates.
Oui, bien
avant,
sûr.
Avant les manifestations.
Je pense qu'Isabelle fera le nécessaire pour nous rappeler toutes ces dates. Il n'y a pas de souci.
Je n'y manquerai pas.
Voilà. Donc, René, vous êtes une Bible vivante, là. Donc, c'est vous le patrimoine, là, pour l'instant.
Oui, je suis à Meaux depuis combien ? 50 ans, plus de 50 ans. Et c'est vrai que je connais assez bien Meaux. J'ai été organiste à la cathédrale pendant 35 ans. Maintenant, je m'occupe de tout ça. Donc, c'est vrai que je connais bien l'ensemble, à la fois de la ville et de l'orgue, de l'instrument.
Je voulais, comme je trouve qu'il y a beaucoup de présence d'orgue, je voulais savoir un peu, ça va de pair avec de l'enseignement, c'est-à-dire, vous avez des projets aussi là-dessus ? Est-ce qu'il y a de la jeunesse qui vient apprendre l'orgue ? C'est quand même un instrument très particulier, et Je veux dire, il n'y a qu'une seule personne aux commandes de l'orgue.
Oui, ah oui, c'est une grande machine avec un bonhomme qui est en milieu, enfoui au milieu des tuyaux qu'on ne voit généralement pas.
Voilà.
Parce que dans les églises, il y a un petit buffet devant.
Oui. Bon.
Alors là, à propos de ça, cet instrument, déjà je rappelle qu'en 1985, on a construit un instrument de 8 jeux pour qu'une classe d'orgue puisse s'ouvrir au conservatoire. Depuis lors, cette classe d'orgue travaille toujours. Et donc, on construit cet instrument aussi qui va servir aussi à l'enseignement. Parce que le premier orgue qu'on a construit n'était pas très important, et, d'un moyen intérêt, disons. Et là, on va avoir un instrument plus important, certainement plus intéressant. Et le but aussi, c'est de donner le goût de l'orgue aux élèves.
Vous parlez de ce nouvel orgue qui va être installé dans le
nouvel
musée.
Orgue, le but, c'est de donner le goût de l'orgue aux élèves. Et donc, cet instrument sera l'instrument de la classe d'orgue, le nouvel instrument de la classe d'orgue. Le petit instrument qu'on a construit en 1985 sera réservé à l'étude des élèves. Donc, vous voyez, on fait l'ensemble, l'étude des élèves et la classe d'orgue. Et même au-delà, parce que... on va faire un partenariat, je l'espère, avec le conservatoire. Au-delà, il serait possible de faire des stages d'orgue, des classes d'orgue, qui pourraient se tenir tous les ans. Et c'est assez très, très, très important. En particulier, on pourrait peut-être faire un partenariat avec le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dont l'un des professeurs est Olivier Latry, qui a été organiste titulaire à ses débuts, à titulaire adjoint à ses débuts en 1980-1982 à Meaux. Donc, vous voyez, on essaye d'un petit peu d'essaimer, de sortir nos tentacules à l'extérieur de la ville.
Mais actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'étude de l'orgue. Vous avez...
Actuellement, à la classe d'orgue, il doit y avoir 4-5 élèves, je pense à peu près. À la classe d'orgue de Paris, dont Olivier Latry est titulaire, il doit y avoir deux classes d'une 10-12 élèves à peu près tous les ans.
D'accord.
Quand même.
Oui, oui.
C'est bien.
Hein. Oui. René, vous pourriez nous décrire l'orgue qui va être construit ?
Oui.
Alors, sa sonorité...
Oui, alors l'esthétique, je l'ai dit tout à l'heure, l'esthétique, c'est, on dit baroque, ou en jargon, je dirais... élitiste, on dirait polyphonique par rapport aux grands orgues tels qu'ils étaient auparavant. Polyphonique, c'est essentiellement l'orgue pour jouer la musique allemande, où les polyphoniques, les voix sortent assez claires. Ouais, je vous ai parlé tout à l'heure à propos des orgues symphoniques, je vous ai dit, on a une patte sonore. Une patte sonore, tout est un peu mélangé. Tandis que l'orgue polyphonique, les voix sont assez claires. Et donc, c'est cet instrument que l'on veut faire, je le répète, qui sera complémentaire, justement, de l'orgue de la cathédrale et à proximité. Ça, c'est tout de même important.
Et son esthétique, est-ce que vous pouvez nous la décrire ?
Ah ben, alors, l'esthétique...
Pas sonore, visuelle.
Oui. Alors, l'esthétique visuelle...
Parce que c'est une œuvre d'art.
Oui. Alors, on s'est posé la question, quand on a décidé de faire un orgue, on nous a proposé déjà d'emblée de construire cet orgue dans la Cité de la Musique qui va avoir lieu, qu'on va construire à Meaux. Mais finalement, c'était pas l'idéal pour des questions d'acoustique, ensuite pour diverses questions, et en particulier pour des questions esthétiques. Parce que si on fait un orgue baroque allemand au point de vue des sonorités, il est assez logique de faire un buffet dans le même esprit, que le buffet corresponde aux sonorités.
Alors, le buffet, c'est le meuble.
Le buffet, alors. C'est le meuble. Mmh. Et si on avait été, par exemple, au centre musical qui va se construire, on n'aurait pas pu faire un buffet, ça serait tombé, comme des cheveux sur la soupe, je dirais, un buffet baroque dans une salle moderne.
Mmh. Il y a beaucoup d'ailleurs de créations d'orgues modernes.
Oui, ça peut se faire. Mais on ferait des instruments classiques ou néoclassiques plus dans cet esprit-là. Or, on a pensé qu'il était préférable pour un instrument qui se voulait résolument polyphonique pour jouer Bach, qu'il était bien de faire un buffet de la même esthétique, d'époque, de la même époque, et en particulier, donc c'est vraiment un buffet d'esthétique d'Allemagne moyenne, parce qu'en France, on a l'habitude de voir en France beaucoup de buffets d'orgue en bois ciré.
Oui, c'est ça.
Parce qu'on avait des bois riches. Mais en Allemagne, ce sont bien souvent des buffets peints. Pourquoi ? Parce que déjà, dans les campagnes, il n'y avait pas beaucoup d'argent pour construire des instruments. Et ensuite, dans les campagnes, il n'y avait pas beaucoup d'instruments, pas beaucoup d'arbres en bois riche.
Oui.
Pas beaucoup de chênes, des choses comme ça. Donc, on prenait du bois blanc et on le peignait.
C'est donc, il s'agira d'un buffet peint, alors.
Oui, ce sera un buffet peint. Le fond est blanc et avec des traits, de l'agrément qui seront jaunes et gris et puis aussi du doré. Et un peu comme l'orgue où jouait Bach la première fois qu'il a été titulaire, c'était à Arnstadt en Allemagne. Blanc, or, et un peu de jaune et de gris, vous voyez, pour relever l'ensemble. Et ça sera donc un buffet de style baroque, on ne peut pas dire autrement.
Mais l'organiste jouera dos au public encore.
Oui, parce que justement, en plus, dans la même logique, en Thuringe, où était Bach, à cette époque-là, généralement, les instruments étaient, comme vous l'avez là sur le schéma, les instruments n'avaient pas de buffet. En France en particulier, on a ce qu'on appelle le grand buffet, le grand corps qui est en l'air.
Oui.
Et on a le positif, parce qu'on le pose sur la tribune, on l'appelle le positif, où l'organiste est entre les deux. Voyez. Alors qu'en Allemagne, généralement, il n'y a que ce qu'on appelle le grand orgue ou le grand corps, où toute la tuyauterie est dedans, même s'il y a plusieurs claviers. Vous voyez, en haut, on va avoir toutes les sonorités, tous les tuyaux qui vont correspondre au premier clavier. Et en dessous, on va avoir tous les tuyaux qui correspondent au deuxième clavier.
Au positif.
Voilà, ce sera un positif intérieur. Et de chaque côté, les plus grands tuyaux, ce sont ceux qui sont destinés à la pédale, qui chantent le plus grave.
D'accord.
Voilà.
Oui, c'est quand même un instrument absolument compliqué, quand même, il faut bien le rappeler, quand même, on joue sur plusieurs claviers, on joue aussi avec un pédalier au pied, donc c'est quand même, c'est une sacrée gymnastique, je dirais, d'être organiste. C'est pas simplement la transposition d'un piano, on a effectivement les mêmes notes que sur le piano, sur chaque plan de jeu, mais c'est la même chose aussi avec les pieds.
Mais c'est beaucoup plus varié qu'un piano, parce que quand vous appuyez sur un do sur un piano, vous n'avez qu'une sonorité.
Oui.
Tandis que sur un orgue, vous avez une sonorité différente à chacun des jeux.
Oui.
Si vous tirez tel jeu ou tel jeu, la sonorité va être différente. Donc pour un orgue de 25 jeux, sur la même note, on peut avoir 25 sonorités différentes. Et sachant ensuite qu'on peut les multiplier, les accoupler les unes avec les autres, ça fait des milliers de possibilités de sonorités.
André, ce que je te propose, c'est qu'on écoute le choix musical de nos invités.
Oui.
On se retrouve juste après.
Mmh.
Allez, à tout de suite. Vous êtes bien sur RVM 93.7 et c'est votre émission Le Bouche à Oreille qui reçoit aujourd'hui l'association Valeyran de Hainan. Et nous allons parler d'orgue. Vous avez bien compris qu'on a bien commencé. Hein. Donc, je rappelle que si vous avez des questions à poser à l'association, il y a possibilité avec le Facebook de RVM FM, le téléphone 03 44 59 30 30 et le mail auditeur au pluriel @rvmfm.com. René, ce n'est pas anodin votre choix musical. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette musique ?
Oh bien parce que c'est du, premièrement c'est du Bach, deuxièmement il l'a composé quand il était organiste à Weimar, et troisièmement c'est assez significatif de cette musique-là, et en particulier c'est ce que l'on entendra en premier, c'est la première pièce qui sera jouée lors de l'inauguration le 16 septembre prochain. Ici l'enregistrement c'était par le grand organiste André Izoard, qui est maintenant disparu, c'est lui qui avait inauguré l'orgue de la cathédrale en 1980.
Très bien, comme ça, on a eu la primeur de ce qu'on va pouvoir entendre le 16 septembre. Voilà. Alors, on va peut-être redonner la parole à Isabelle, parce que là, on va parler un petit peu de logistique. Hein. On a bien compris que c'est un projet qui est énorme, hein, on peut dire. Hein. Mais il faut le financer, ce projet, Isabelle.
Qui est énorme en temps de travail pour chacun.
En financement aussi.
En financement aussi, effectivement, puisque l'instrument n'est pas en totalité financé. Il y a encore 35 000 euros à collecter. Enfin, on a lancé une collecte sous forme de financement participatif. Donc, sur le site de l'association Valeyran de Hainan, il est possible donc de faire un don. Et c'est ce qu'on est venu essayer de demander ici, que les auditeurs qui aiment la musique d'orgue, qui souhaitent soutenir la construction du nouvel orgue qui sera installé dans le musée Bossuet à Meaux, et qu'ils veuillent bien entendre notre appel. Et les dons, donc il est possible de les faire sous forme de chèques, de règlements en ligne sur une plateforme sécurisée que nous avons mis en place sur le site de l'association. Donc l'adresse du site c'est valeyran.org, Valeyran comme le nom de l'association, valeran.org, c'est un petit clin d'œil ORG aux grandes orgues de la cathédrale, oui, et de l'orgue qui sera installé dans le musée. Voilà, donc en contrepartie de ces dons, hein, il n'y a pas de limite à la générosité, il y a un minimum de 10 euros qu'il est possible de donner. En contrepartie, on a prévu un certain nombre de cadeaux, enfin de remerciements sous forme de soit d'invitations à des visites dans la cité épiscopale, soit visite de notre instrument en privé avec un petit groupe de 15 personnes. Si les auditeurs ont des amis ou des membres de famille avec lesquels ils veulent constituer un groupe et s'ils font un don d'une suffisamment haute importance, il sera possible d'organiser ce type de visite privée. On fera également des cadeaux d'ordre gastronomique. Meaux est quand même bien placé au niveau de la gastronomie avec sa moutarde. Il y a également des bouteilles de champagne que l'on peut aussi gagner lors de cet échange. C'est sous forme de partenariat que l'on a imaginé notre financement participatif, notre opération de financement participatif.
Voilà, donc c'est important quand même. 35 000 euros, ce n'est pas une petite somme. Hein, quand même.
Ce n'est pas une petite somme, effectivement. Mais si chacun donne ne serait-ce que 10 euros, on peut facilement arriver... si tous les mélomanes et les musiciens, pourquoi pas aussi, font ne serait-ce qu'un don de 10 euros, on peut très facilement arriver à cette somme de 35 000 euros.
Oui, voilà. Et vous expliquez comment aller justement utiliser cette somme. Hein, vous expliquez bien sur votre site.
Oui, sur le site, on a tout à fait expliqué qu'il y a en plus déduction fiscale pour les donateurs. Parce qu'en réalité, si on fait un don de 10 euros, je parle de cette somme qu'il est possible à chacun... petite économie sur un paquet de cigarettes, par exemple, ou je ne sais quelle autre réserve, il est possible, donc, sous forme donc, de 10 euros de dons, en réalité, que la déduction fiscale de 66% qui est accordée donc, aux donateurs des associations à but non lucratif, comme c'est notre association, mais surtout d'intérêt général, en réalité, le don ne coûtera aux donateurs que 3,40 euros. Voilà, donc oui. Pour 10 euros de don, une fois qu'on fait sa déduction sur ses impôts, on n'aura en réalité déboursé que 3,40 euros.
Voilà, et même pour les artisans, pour les commerçants, c'est 60%.
C'est 60% pour les associations, et pour les entreprises, exactement, 60% de déduction fiscale. Et justement, vous faites ce petit clin d'œil aux commerçants et aux entreprises. On est tout à fait ouvert à un partenariat pour pouvoir leur permettre de rayonner sur notre site internet, sur nos programmes. Bien entendu, s'ils font un don à notre association, on leur fera ce retour dans notre programmation. On a prévu d'insérer leur logo tout au long de notre saison, à chaque fois qu'il y aura un concert.
Il faut rappeler que la destination de cet orgue, c'est pour la classe d'orgue du conservatoire de Meaux. Je pense que les donateurs doivent être au courant que ce n'est pas simplement un orgue pour un orgue, c'est aussi pour faire vivre la musique à Meaux et l'enseignement de la musique à Meaux.
Vous avez parlé tout à l'heure du don de l'ensemble. Il nous manque 35 000 euros, mais il faut voir que ça ne représente que 10% de la dépense.
Ah oui. Hein,
le budget est tout de même de 255 000 euros. Bon, c'est tout de même important. Et il faudrait tout de même dire que notre association, parce qu'on prévoit ça depuis fort longtemps, notre association qui existe depuis 46 ans, on a provisionné depuis plusieurs décennies cette dépense, et qu'actuellement, donc sur les 255 000 euros du budget, on peut avancer d'ores et déjà 220 000 euros.
Oui, c'est énorme quand même, oui. Vous avez su bien gérer les affaires à l'avance, quoi.
C'est déjà pas mal.
Et vous avez des aides peut-être de la mairie de Meaux,
du département, du conseil général. On est normalement subventionné tous les ans. Et bien sûr, dans nos budgets, on fait des provisions pour investissement. Puisque c'est un responsable des orgues au niveau de la région, il y a plusieurs dizaines d'années, quand on a dit qu'est-ce qu'il faut faire, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait fait un petit orgue pour l'ouverture d'une classe d'orgue, j'avais demandé un jour, où on avait mis un peu de fonds de côté, ce qu'il fallait faire de cet instrument, et sans hésiter, le responsable des orgues m'a dit, vendez-le, faites-en un autre. Donc c'était pour ça, c'est pour ça qu'on est parti sur cette idée-là, et finalement, on ne l'a pas vendu, puisque maintenant, c'est l'instrument que l'on va proposer aux jeunes pour l'étude, à côté du plus grand que l'on est en train de construire.
Voilà, donc ça, je me rappelle, c'est le projet Novorgamo. Hein,
exactement.
Voilà, on l'appelle comme ça. Et donc, on peut adhérer aussi à l'association. J'ai vu qu'une adhésion simple, c'était 22 euros pour
une
personne.
Oui.
Et pour des couples, 29 euros.
Tout à fait.
Donc, vaut mieux être en couple, là.
Effectivement. Hein, en plus, c'est peut-être davantage agréable d'aller à un concert, mais on peut aussi adhérer, venir avec des amis. Hein, on est. Ouais.
Et vous avez combien d'adhérents, si ce n'est pas indiscret en ce moment dans votre association?
Ben, là, avec la pandémie...
Ça a freiné un petit peu, oui.
Un petit peu, oui, une cinquantaine d'adhérents.
Oui, on a été généralement autour 80, 70, 100. Et là, actuellement, on a une cinquantaine d'adhérents.
Donc là, faut les faire revenir, quoi, c'est ça, hein?
Absolument.
Mais il faut tout de même savoir qu'en 46 ans, on a organisé tout de même 400 concerts autour, à l'époque, c'était donc le grand orgue de la cathédrale. Hein. On a organisé 400 concerts, et ce qui a attiré environ 53 000 auditeurs.
Ah, bravo!
Ce qui est déjà pas mal.
Oui, hein. C'est énorme. Oui. Oui. C'est très bien, 400 quand même concerts, ça fait... Ça en fait presque 46 ans, 400, ça fait presque 10 par an, quoi. Donc,
oui, c'est ça. 9,
ah,
10,
c'est énorme,
9,
c'est une belle cadence, hein, oui, oui.
9, 10 par an.
Alors, on arrive sur la dernière phase de notre construction d'instruments. On va bientôt rencontrer le facteur d'orgue pour le choix de la couleur du buffet en se rendant dans sa région, près de Niort, et on a donc cette découverte, puisqu'on le voit en photo, il y a eu déjà des rencontres, on va le voir pour de vrai.
Et on appelle ça facteur d'orgue, pourquoi ? Ça vient de où, ça,
facteur ? Le mot facteur vient du verbe faire.
Oui.
Un facteur, c'est celui qui fait. Voilà.
Factum.
Voilà.
Okay.
Mais en réalité, le facteur d'orgue, bon, c'est lui qui fait l'essentiel, qui fait le buffet, qui fait toute la mécanique, parce qu'il y a une mécanique très complexe entre les touches que vous enfoncez et le tuyau qui parle. Il faut dire qu'il y a toute une mécanique. Ça, c'est le facteur d'orgue qui le fait. Mais celui qui fait parler les tuyaux et qui vraiment leur donne tout ce que l'on veut comme style, c'est celui qu'on appelle l'harmoniste.
Oui.
Donc la semaine prochaine, nous allons aller chez le facteur d'orgue, et on va voir le facteur d'orgue et l'harmoniste.
D'accord.
Et l'harmoniste, comme le facteur d'orgue, d'ailleurs, il travaille en atelier. Là, actuellement, l'harmoniste est en train d'harmoniser les tuyaux un par un. Ensuite, l'instrument, à partir de la semaine d'après, va être démonté, complètement démonté, et va être, les semaines qui suivent, va être remonté dans le musée Bossuet.
Voilà. Ah oui, c'est un sacré boulot quand même.
Ah oui, c'est un sacré travail, oui, oui.
Il y a 1426 tuyaux à transporter.
Oh, purée.
Et
c'est fragile comme tuyau qu'il faut faire attention?
C'est des tuyaux et c'est assez fragile parce que ça n'est pas du zinc, ça n'est pas de l'acier, c'est un alliage d'étain et de plomb. Donc ça n'est pas très, très, très dur. Et si vous poussez avec le doigt, je pense, si on fait une pression, je pense que ça en doit faire une marque.
Ah oui, c'est quand même assez sensible. Oui, oui.
Mais oui, mais alors ce qui fait aussi, alors là on parle de la sonorité, ce qui fait aussi la sonorité d'un tuyau, c'est la qualité de l'alliage. Ouais. Plus il y a de plomb, plus le tuyau va parler doux, feutré. Mmh. Et d'accord. Plus il va y avoir d'étain, plus le tuyau va parler clair.
Ok. Ah oui, donc il faut savoir faire l'alliage comme il faut. Là. Voilà.
Voilà.
Donc, par rapport à la sonorité qu'on veut, il faut bien travailler sur
donc
le
mélange. Donc ça ajoute encore à la complexité, je dirais, la complexité du problème. En plus que les tuyaux, il y a leur forme. Il y a ceux qui sont cylindriques, de taille moyenne, c'est ce qu'on appelle les principaux. Il y a ceux qui sont plus larges, c'est les bourdons. Il y a ceux qui sont plus étroits, la doublette ou des choses comme ça. Vous voyez, il y a les jeux d'anches, c'est-à-dire ceux qu'on appelle le hautbois, la trompette, la bombarde. Ce sont des jeux d'anches. Comme dans l'harmonica, c'est une anche qui vibre et qui fait résonner le tuyau. Donc c'est tout ça qui fait les différentes sonorités. Donc vous voyez, il y a un tas de facteurs qui influe.
Ah bah dis donc, oui. C'est un sacré boulot.
La dimension du plus petit tuyau.
Oh, le plus petit doit faire combien? 3, 4, 5 cm. Faudrait demander.
C'est ça. Et le plus grand?
Ah le plus grand, de toute manière, on parle toujours à l'ancienne, dans facture d'orgue, on parle toujours en pied.
Oui.
Alors, nous aurons un tuyau de 16 pieds. Donc un pied, c'est environ 34 cm. Donc 16 fois 34.
Et ben voilà une belle colle hein, pour finir l'émission.
Donc ça va faire 3 mètres des poussières.
Ça fait 4,20 mètres à peu près.
Bien que
c'est haut,
si le tuyau est bouché,
oui.
Pour donner le même son, si le tuyau est bouché et coupé en deux à la moitié, il va donner l'octave inférieure. Donc, vous voyez, c'est encore un des facteurs.
Mais Frédéric, vous nous dites que c'est un instrument qui va être haut, mais effectivement, il fera 6 mètres de haut sur 4 mètres d'envergure. Ouais, donc, ce n'est pas
6 mètres de haut, oui, 6 mètres de haut.
Donc, on ne peut pas le mettre n'importe où, quoi, quand même. Hein.
Non.
Ben non, justement.
Il n'ira pas dans ton salon.
Ben, je pense que ça sera négatif. Hein, ouais. Ou alors, il faut que je casse le plafond, quoi. Hein.
Ouais.
Non, mais c'est impressionnant, on ne se rend pas compte comme ça. Mais,
donc, oui, les tout petits donnent des sons hyper aigus, c'est ça?
Aigus.
Hein,
plus les tuyaux sont petits, plus ils chantent aigus.
D'accord, donc les très grands, c'est les
Donc très grands. Si on part un piano, si vous voulez, ça correspond à 8 pieds. Le tuyau, le do le plus grave, correspondrait à un tuyau de 8 pieds de haut.
Ouais.
8 fois 3, 24, 8 fois 4, 32, ça fait 2,70 m, 2,80 m environ.
Ouais.
Ça, le do du bas, hein, et le do au-dessus, mais il va avoir la moitié comme hauteur. Mmh. Donc, au lieu de 4,70 m, il va avoir 2,35 m. Hein, je dis ça en gros.
Mmh.
Celui, une octave au-dessus, va encore avoir une taille moitié.
C'est ça.
Donc, on arrive en haut, les tuyaux sont petits.
Ah oui. Et René, qui va jouer dessus alors, le jour de l'inauguration?
Il y a un tas de monde.
Il y a plusieurs personnes, oui.
Qui va l'inaugurer? Le premier, ça sera Olivier Latry, qui est professeur d'orgue au Conservatoire de musique de Paris, qui a été organiste, qui a été mon adjoint à la cathédrale pendant plusieurs années. Et ensuite, il y aura différentes personnalités du monde de l'orgue connues. Il y aura l'harmoniste, qui est un organiste bien connu aussi, qui jouera. Il y a l'organiste de la cathédrale, qui jouera, Domenico Séverine. Il y a Éric Lebrun et son épouse, Marie-Ange Leurand, qui est professeur d'orgue au conservatoire de Saint-Maur, qui est un conservatoire réputé. Et puis, tout à fait à la fin, moi, je suis toujours pour faire jouer les jeunes, pour mettre les jeunes en avant. Oui. La dernière pièce qui sera jouée le dimanche, ça sera, on va jouer une transcription de la Rhapsody in Blue de Gershwin, ouais, avec deux jeunes organistes. Le pianiste, ce sera Alexis Grisard, qui a 18 ans, et l'organiste, ce sera Alma Bettencourt, qui a 16 ans.
Ah oui,
magnifique.
Alors,
c'est vraiment une belle transmission là.
Oui, oui, donc,
et vous-même?
Moi non, ben non, moi je ne peux plus parce que malheureusement j'ai quelques petits problèmes aux mains. Ah. Mais enfin, je pianote, mais maintenant je ne peux plus jouer les œuvres comme j'en jouais encore il y a quelques années.
Ah, voilà. Dommage ça.
Bah, vous découvrirez tout le programme sur le site de l'association.
Oui. On ne l'a pas encore mis sur
le site. On l'a pas mis encore, mais
ça se prépare, quoi.
Il est à peaufiner.
Parce qu'il y a des organistes, tous les organistes ne sont pas des gens très organisés. Et pour avoir une réponse, c'est parfois très long. Il faut les relancer, c'est oui, c'est non. Ils vous disent, j'ai eu un trompettiste qui m'a dit oui en septembre, c'est d'accord, je serais content de venir à Jeux-Hameaux. Quand je lui souhaite la bonne année au mois de janvier, il me dit, oh, que c'est plus possible. Il me renvoie à un autre organiste qui, lui, me dit oui, d'accord, et puis deux mois après, qui me dit, oh ben non, je ne serai pas libre.
Ah, c'est toujours complexe. Ouais, ouais. Et pourtant, il n'y a plus la pandémie qui nous embête, quoi. Enfin, elle est toujours présente, mais elle laisse beaucoup plus de liberté. Donc là, maintenant, on peut quand même refaire des concerts, on peut refaire des activités, des animations. Donc ça, c'est important,
oui,
quand même.
Hein. Oui.
C'est important pour vous. Donc là, les appels aux dons, c'est jusqu'à quand, Isabelle? Alors du coup, il y a une date limite ou pas?
Il n'y a pas de date limite. Tant qu'on n'a pas atteint notre collecte, il n'y a pas de limite, effectivement. Et vous pourrez donc découvrir l'instrument, enfin on va en dévoiler un petit peu quelques tuyaux si j'ose dire, lors de cette visite qui sera faite donc chez le facteur d'orgue le week-end prochain. Vous verrez quelques photos sur le site internet qui permettra à chacun d'apprécier justement la qualité de cet instrument.
Oui. Donc lui, son objectif, c'est d'être prêt pour le 16 septembre, quoi, c'est ça, hein?
Absolument, même avant,
même puisqu'il avant va être pour le livrer, pour
à l'animer.
Pour l'installation, ça doit être long à installer, je pense.
Tout à fait, il a plusieurs semaines de travail.
Plusieurs semaines, ah, oui, d'accord.
C'est plus long à le démonter qu'à le remonter.
D'accord.
Et il faut compter 2 à 3 semaines. Je pense que fin juin, ça sera à peu près terminé.
Ah oui, donc c'est un travail très méticuleux, très...
Oui, oui. Ouais, ouais.
Mais même pour la sonorité, la personne qui travaille sur la sonorité, ça doit être...
L'harmoniste.
L'harmoniste
ouais. Qui est monsieur avez... Jean-Marie Tricoteau.
Tricoteau. Il est très, très connu, il a fait de très beaux instruments jusqu'au Japon, en Amérique, et il est très connu. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'orgue de Notre-Dame de la Rédemption à Lyon, qu'il a... un des derniers qu'il a harmonisé.
Et pour la sonorisation, vous lui avez demandé quelque chose de particulier ou c'est lui qui vous propose quelque chose?
Ah ben non, on s'est adressé à lui parce que aussi c'est un spécialiste pour les orgues de sonorité tels qu'on l'a vu baroque. Hein.
Oui, voilà.
Donc on s'est adressé à lui.
Oui, bien sûr.
Si on avait voulu un orgue symphonique ou romantique, on aurait peut-être choisi un autre facteur d'orgue.
Très bien.
Le facteur d'orgue, c'est monsieur François Delumeau.
François Delumeau, le facteur.
Eh bien, je crois qu'on a peut-être fait le tour. Isabelle, il y a peut-être des choses à rajouter qu'on aurait oubliées?
Non, mais venez visiter le site valeran.org, valeran.org.
Très bien. Et on mettra ça sur le site de la radio. Ça permettra aux gens de pouvoir faire ce lien. René, une conclusion?
Je voudrais simplement, parce qu'on n'en a pas parlé, on a parlé du facteur d'orgue et de l'harmoniste, mais il faut dire que ce travail représente plusieurs milliers d'heures de travail pour des artistes d'art.
Ah oui, des milliers d'heures, quand même.
Oui, plusieurs milliers. Oui. Si on compte le facteur, les sous-traitants, le tuyauté qui fait des tuyaux, ça représente, je ne sais pas, 4-5 000 heures de travail.
Oui. Ah, dis donc.
Voilà.
Bah écoutez, hein, donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir aider ce projet à se mettre en place et pouvoir après aller se promener au musée de Meaux. Hein, donc, je rappelle le nom du musée. C'est le musée...
Bossuet.
Mmh. Voilà.
Du nom de l'évêque.
Très bien.
Qui était de Meaux.
Et voilà.
Une des grandes personnalités de Meaux. Il faut rappeler que maintenant, il va y avoir donc du 16 au 18 septembre prochain, à l'occasion des Journées du patrimoine, l'inauguration de ce nouvel orgue.
Voilà, avec concerts, avec plein de choses autour, donc visites guidées, bien sûr. Donc, écoutez, réservez votre week-end du patrimoine pour aller sur Meaux. André, une conclusion ? Je te laisse finir l'émission.
Je pense que la conclusion, c'est que je crois que il est heureux qu'on puisse ouvrir l'orgue et ouvrir les oreilles, parce que l'orgue a peut-être une image comme ça de choses qui ne se jouent qu'à l'église, etc. Alors que c'est un instrument immense, absolument immense, et d'émotions extraordinaires. Je le recommande tout à fait particulièrement aux jeunes.
Merci André. René, merci de votre visite sur nos ondes. Isabelle, merci aussi d'être passée avec votre président. Voilà.
Merci.
On va vous remettre un diplôme d'émancipation radiophonique. Vous l'avez bien mérité. Voilà. Donc, les auditeurs, rediffusion de cette émission le dimanche à partir de 16h, le mardi à 10h, et après en podcast, le bouche à oreille. Bonne écoute sur RVM 93.7. Au revoir.
C'était une émission de la rédaction de RVM.